Alors, on m'a confié donc le troisième volet donc de cette série au sujet de gérer nos relations. Ça semble un petit peu curieux l'idée de gérer les relations. Hein, c'est quand même quelque chose de personnel. Mais si par gérer, on veut dire agir délibérément, pour avoir de bonnes et saines relations interpersonnelles, surtout avec nos frères et sœurs en Christ. Alors là, je suis bien d'accord avec ce terme. Et dans le fond, on pourrait résumer cette idée de bien gérer nos relations simplement par le verbe aimer. Jésus, en répondant à un enseignant de la loi à son époque, a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un, second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Ça, c'est Matthieu 22, 37 à 40. Alors, c'est très intéressant ce que Jésus dit. Il dit en disant que le second commandement, aimer les autres, est semblable au premier commandement. Et il dit même que ces deux commandements résument tout l'enseignement de la Bible. Alors, les chefs religieux de l'époque, quant à eux, pensaient énormément au premier commandement, mais ne semblaient pas trop faire le rapprochement entre le premier et le deuxième. Ils faisaient plein de choses pour plaire à Dieu, ou tout au moins ils pensaient faire des choses pour plaire à Dieu, mais pas forcément énormément pour aimer les autres. Et d'ailleurs, ils reprochaient à Jésus ses fréquentations. Collecteur d'impôts et autres personnes, soi-disant, de mauvaise vie. Alors, pourquoi il faisait cette reproche à Jésus? Parce que tout naturellement, il voulait que les autres pensent comme eux, parlent comme eux, qu'ils voient le monde exactement comme eux. Et je pense que nous, on n'est pas si différents. Ma tendance naturelle, c'est de vouloir que les autres soient comme moi. Pourquoi ça? Parce qu'évidemment, j'ai raison. Bon, comprenez-moi, je parle de ma tendance naturelle de pécheur, hein, qui est de penser que j'ai toujours raison, et donc, par extension, les autres devraient penser comme moi. Et pour moi, une des clés principales pour bien gérer nos relations avec les autres, c'est d'accepter de bien gérer nos différences. Et nous sommes tous différents. Nous sommes différents de toutes les autres personnes dans ce monde. Nous sommes différents de notre conjoint, de notre famille. Nous sommes différents de toutes les personnes qui nous entourent. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, bien vivre nos différences. Pour vraiment s'aimer les uns les autres, il est indispensable de bien gérer, de bien vivre nos différences. D'ailleurs, ce mot « gérer », je pense qu'il est particulièrement approprié dans le domaine de nos différences, de faire face à nos différences. Et d'ailleurs, cette question est tellement importante que nous avons préparé un séminaire pour les couples chez Agape Famille, justement, qui traite de ce thème de nos différences. Alors, est-ce que vous connaissez des personnes proches qui sont très différentes l'une de l'autre? Un couple, par exemple, ou mari, ou... ok, je vois, oui, ça... Alors, j'ai regardé dans le Guinness des records, et il y a quelques records comme ça. Par exemple, le plus grand écart de taille dans un couple marié, c'est un couple français, s'il vous plaît, cocorico. Monsieur fait 1m88 et madame 94 cm. Donc monsieur fait le double de madame. Ok, les différences entre deux personnes, deux conjoints par exemple, peuvent nous faire rire. Ça peut nous sembler mignon, mais ça peut nous énerver et ça peut nous faire peur aussi. Et regardons un petit peu en détail cette idée de la différence. Qu'est-ce que c'est que la différence? Alors, j'ai regardé sur le Larousse en ligne, absence d'identité, de similitude entre des choses, des personnes, caractère qui les distingue l'une de l'autre, des similitudes. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est que la différence, c'est ce qui distingue d'une personne à une autre personne. C'est ce qui fait que moi, je suis moi, et toi, tu es toi, toi, tu n'es pas moi, et moi, je ne suis pas toi. D'ailleurs, ça me rappelle un vieux dicton que vous avez certainement entendu dire. Si deux personnes sont absolument d'accord sur absolument tout, l'une d'entre elles est inutile. Jeannette et moi, on a suivi un cours sur le conseil conjugal, et les profs ont tout le temps parlé de l'altérité, c'est-à-dire le fait d'être autre, le fait d'être différent. Et la différence a aussi une autre implication intéressante. La différence veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, que je ne suis pas seul dans l'univers. Nous sommes faits pour être en relation les uns avec les autres, pas pour être seuls. Et si la différence est ce qui distingue deux personnes, alors pour ne pas être seul, la différence est vraiment indispensable. Alors, la différence, c'est une bonne chose pour plusieurs raisons. Première raison, la différence est voulue par Dieu. Dans tout le récit de la création, la différence est criante. Dieu crée la nuit et le jour, il sépare les eaux de la terre ferme, les animaux, il les crée mâles et femelles, et aussi les êtres humains, hommes et femmes. D'ailleurs, concernant le mariage dans la Bible, il est interdit d'épouser quelqu'un de trop proche. Hein. Un homme n'a pas le droit d'épouser sa sœur, mais d'épouser quelqu'un de trop différent, ça n'existe pas. Chose intéressante. La différence rend la vie aussi plus intéressante. Ce serait quand même ennuyeux d'être tous pareils, n'est-ce pas ? L'un des plus grands argumentaires de vente, c'est la variété. Chez Darty, nous avons le plus grand choix de grille-pain. On nous dit tout le temps, manger équilibré. Autrement dit, manger varié. Vous ne voulez pas manger la même chose tous les jours, n'est-ce pas ? Il y a quelque temps, mon fils m'a fait plus ou moins un reproche. Il a dit, papa, tu sais que vous mangez à peu près les mêmes 5 à 10 repas tout le temps. Bon, observation intéressante. La différence est aussi source de beauté. Je connais un couple, lui est français de type européen et elle est d'origine africaine. Et on leur a dit maintes et maintes fois, ah, vous allez faire de beaux enfants. Alors, je ne sais pas si ce type de remarque est une sorte de racisme au deuxième degré, hein. Mais toujours est-il qu'il y a un certain nombre de top modèles dont les parents sont de deux ethnies différentes. Mais pensez aux œuvres d'art. Le contraste de couleurs, de formes, est nécessaire à la beauté, n'est-ce pas ? Si vous vous promenez au musée du Louvre, vous allez voir qu'il y a une chose de couleur unie et qui est presque identique partout. Ce sont les murs où sont accrochés les œuvres d'art. Alors, si votre famille était un musée, est-ce que vous préféreriez être plus comme les murs ou comme les œuvres d'art? Bon, peut-être pas tout le monde comme des Picasso, mais bon. La différence est aussi utile. Un fruit de la différence, c'est la complémentarité. L'apôtre Paul évoque ça dans un passage que vous connaissez certainement. Je vais juste en lire quelques extraits. 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Bon, moi j'appelle ça l'unité par le biais de la différence. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Et le corps humain est un bel exemple d'interdépendance. Chaque organe est important, mais bien distinct. Le cœur n'est pas pareil que le rein, et tant mieux. Mais ils sont tous dépendants les uns des autres. Pour Jeannette et moi, on a beaucoup de choses où nous sommes complémentaires, des domaines où l'un est assez doué et l'autre moins. Par exemple, je suis d'un naturel assez désorganisé, alors que Jeannette est très organisée. Alors, ça ne veut pas dire que je me donne l'excuse de ne jamais rien organiser et de tout se mettre sur le dos de Jeannette, c'est pas ça. C'est plutôt qu'elle m'aide à mieux m'organiser. Bon, ok, soyons honnêtes, la différence est une bonne chose, mais la différence ou notre manière de la vivre n'est pas toujours positive. Ok, parfois la différence nous heurte ou nous fait peur. Alors, pourquoi? Premièrement, la différence nous remet en question. Ah bon? Je n'ai pas toujours raison? Je ne suis pas la référence de tout dans l'univers? Dans le fond, ma tendance naturelle de pêcheur est de penser que l'univers tourne autour de moi, que je suis la référence et que je vois tout par rapport à moi. Mais en réalité, la différence me heurte parce que ça prouve que je ne suis pas Dieu. On a peur de la différence parce qu'elle peut être source de conflit. Mais même si on a un conflit à cause de nos différences, le conflit n'est pas toujours mauvais. Alors, ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon, de positif dans le conflit? Bon, il y a plusieurs choses. Une chose positive du conflit, c'est qu'il nous aide à nous définir, à décider qu'est-ce qui est vraiment important. Je vous donne un exemple. Jeannette et moi avons grandi dans deux milieux très différents. Mon père était cadre, les parents de Jeannette, ouvriers. Et on avait des habitudes dans nos familles qui étaient aussi assez différentes l'une de l'autre. Par exemple, certaines dépenses. Dans ma famille, pour les loisirs, par exemple, on allait au cinéma, mais pas question d'acheter du pop-corn ou des bonbons, puisque c'était à un prix aussi exorbitant. Alors, loin de moi la pensée d'acheter une glace sur la plage. Hors de prix, n'est-ce pas? Alors, les parents de Jeannette travaillaient dur et économisaient. Mais en vacances et lors de petites sorties occasionnelles, c'était un petit peu la fête. Ils se permettaient des friandises, etc., sans pour autant exploser le budget. Alors, cette différence dans notre éducation était source d'un petit conflit entre Jeannette et moi quand on se fréquentait. On a passé une journée au bord de la mer. Alors, comme à son habitude familiale, elle suggère, ah tiens, si on se prenait une glace, et elle avait peut-être suggéré une ou deux autres choses. Alors ma réaction instantanée, c'était, mais non, ça coûte trop cher, et j'ai commencé même à m'énerver un petit peu. Ce petit conflit m'a amené à réfléchir. Est-ce que j'allais en mourir d'acheter une glace à un endroit un peu cher? Est-ce que c'est vraiment si horriblement cher que ça? Parce que pourtant, la plage, c'est un des endroits les plus sympas pour se prendre une glace. Et j'ai changé d'avis. De temps en temps, on se fait ce type de petits plaisirs. Ce conflit nous a aidés à nous rendre compte de certaines choses qui étaient des habitudes et je dirais presque des automatismes. Et nous a permis de décider, ok, dans notre couple, comment est-ce que nous, on allait faire. Évidemment que Jeannette et moi, on est toujours influencés par notre éducation, mais nous n'en sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas obligés de faire comme nos parents ont fait. L'important, c'était de discuter, de décider comment nous allions faire, nous. Le conflit est normal et même inévitable. Tout le monde vit des conflits. L'important est de ne pas chercher à éviter à tout prix les conflits, mais de les laisser se passer et de les résoudre. Et trop souvent, on interprète mal le passage de Matthieu 5, 9. « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Parfois, on ne dit rien si on nous blesse, si on nous offense, sous prétexte de garder la paix, mais cette paix-là, c'est plutôt une fausse paix. Et souvent, une fois un conflit résolu, on a grandi, notre amitié, notre relation de couple est plus forte et meilleure qu'avant le conflit. Ok, nos différences, qu'est-ce qu'il faut en faire alors? Nous pouvons non seulement accepter, tolérer nos différences, mais apprendre à nous apprécier et même tourner nos différences à notre avantage. Parce que chacun d'entre nous est unique et de grande valeur à Dieu. Psaume 139. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Mais si je suis unique et d'une grande valeur à Dieu, ça veut dire que toi, tu l'es aussi. Et si je commence à penser que, oh, qu'est-ce que tu es nul dans telle ou telle chose, ne suis-je pas en train de contredire Dieu? Un résultat de l'acceptation de nos différences, c'est que nous accordons la liberté d'être différents. Ça veut dire que je t'accorde la liberté d'avoir un avis différent, de vivre ta spiritualité de manière différente de moi. Je vais respecter tes différences et, on peut l'espérer, apprendre à les apprécier. La majorité des différences entre nous sont positives. Entre Jeannette et moi, il y a plus de différences qui sont belles, intéressantes et complémentaires que de différences qui sont négatives ou énervantes. Et donc, concentrons-nous sur nos différences qui sont positives, ne restons pas braqués sur le négatif. Voyez cette feuille, qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille? Ok, c'est un carré noir. Pourtant, assez petit. Bon, si j'approche, si je regarde que le point noir, de plus en plus près, vient un temps où je vois plus que du noir. Pourtant, j'ai fait le calcul, le carré noir sur cette feuille occupe exactement 0,6% de la superficie. Donc, voyons nos différences quand même dans leur juste mesure. Alors, donc j'ai perdu ma place. Bon, lorsqu'une différence nous heurte, nous embête, posons-nous la question pourquoi. Il peut y avoir plusieurs raisons qu'une différence tout à fait légitime nous dérange. Il peut être question de goût ou de préférence personnelle. Je me souviens, quand j'étais adolescent, je visitais une autre église, et à cette époque-là, bon, les pasteurs portaient toujours costume-cravate au culte, et le pasteur partage une histoire drôle, il dit, une dame de l'église lui dit une fois, « Pasteur, tes cravates sont une occasion de chute pour moi. » Et il dit, « Ah bon ? Mes cravates te poussent vers le péché ?» Il dit, « Mais non, c'est juste une occasion de chute pour moi. » Bon, en fait, elle voulait dire que les cravates du pasteur n'étaient pas à son goût et, dans le fond, ça l'énervait un petit peu. Ok, est-ce qu'une différence qui vous heurte est parce que c'est contraire à vos habitudes, comme la glace au bord de la mer avec Jeanne et moi? Ou est-ce que l'autre vous a réellement offensé? Auquel cas, il faut aller voir la personne et en parler ouvertement et honnêtement. La différence est une bonne chose, mais qui porte quelques inconvénients qu'il y a lieu de gérer, comme notre titre d'aujourd'hui. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand une différence négative, difficile, arrive? Plusieurs choses. Premièrement, se pardonner. Rappelez-vous, se pardonner, c'est un commandement. Vous me citerez certainement plusieurs passages de la Bible à ce sujet. C'est pourtant l'une des choses les plus difficiles à faire, n'est-ce pas? Mais c'est une des choses qui porte le plus de fruits. Dieu nous a pardonné tous nos péchés en Christ. À nous de chercher à ressembler à Christ en pardonnant aux autres. Deuxièmement, il est important de se supporter, c'est-à-dire de s'accepter les uns les autres. Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Ça implique aussi être patient avec les autres. Le fruit de l'esprit inclut la patience, n'est-ce pas? Je vais vous lire un document tiré d'un livre de Peter Scazzaro que certains d'entre vous connaissez. Malheureusement, le livre en question n'est qu'en édition anglaise. Mais j'ai traduit un document que l'auteur a affiché dans sa cuisine. C'est un petit peu comme la déclaration des droits de l'homme. C'est la déclaration du droit au respect. Et le respect veut dire que j'ai et que j'accorde aux autres les droits suivants. C'est très intéressant. Premier droit, droit à l'espace et à l'intimité. Je frappe avant d'entrer, je n'ouvre pas le courrier de l'autre, je respecte son droit au calme et à l'espace. Le droit d'être différent. J'accepte que l'autre a des goûts différents pour la nourriture, le volume de la musique, Bon. Le droit de ne pas être d'accord. Je laisse la place pour chacun de penser et de voir la vie différemment. Le droit d'être écouté. Écouter les opinions, les pensées, les désirs, les sentiments de l'autre. Le droit d'être pris au sérieux. On écoute, on est là, l'un pour l'autre. Le droit de recevoir le bénéfice du doute. Je vérifie mes suppositions plutôt que de juger. Le droit d'entendre la vérité. Je compte sur toi pour me dire la vérité. Si je pose une question difficile comme « Tu as révisé pour cet examen ou tu as eu zéro ?» Le droit d'être consulté. Lorsqu'une décision que j'ai à prendre t'affecte, je t'en parle. Le droit d'être imparfait, de faire des erreurs. Je laisse la place pour des accidents ou des choses sont cassées ou des choses s'oublient. Le droit d'être traité honorablement et avec courtoisie. On utilise des paroles et un ton qui ne blessent pas. On demande à l'autre avant d'utiliser ses affaires. On consulte l'autre. On traite l'autre comme une personne et non comme un objet. Et globalement, le droit d'être respecté. On tient compte des sentiments de l'autre. Alors, j'ai fait quelques copies papier de ce document que je vais mettre sur le comptoir de librairie que vous pouvez prendre si vous voulez. S'il y en a plus, ou si vous préférez, vous pouvez aussi m'écrire un mail. Je suis dans l'annuaire de l'Église et me demander la copie de ce document. Donc, résumons. Une clé pour bien gérer nos relations, c'est de bien gérer, bien vivre nos différences. La différence est une bonne chose, elle rend la vie plus intéressante et elle est utile. La majorité des différences entre nous sont positives. Parfois, nos différences peuvent nous heurter, nous faire peur et même causer des conflits. Cherchez pourquoi une différence avec un proche vous dérange. Souvent, il est question d'habitude, de notre éducation, de nos goûts. Et n'ayez pas peur du conflit. Ne cherchez pas à l'éviter à tout prix, mais surtout à le résoudre. Et il y a des chances qu'après, votre relation soit meilleure, plus proche, plus forte qu'avant. La solution, c'est l'acceptation. Mon conjoint, mon enfant, mon ami est unique, différent de moi, et c'est une très bonne chose. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement lorsque c'est nécessaire. Et je termine avec un petit défi que j'ai pour vous, que j'aime faire des fois quand je suis de prédication. Cette semaine, faites un compliment par rapport à une différence, à un proche, à votre conjoint, à l'un de vos enfants, à un ami. Faites un compliment cette semaine sur une différence que vous appréciez chez l'autre. Prions. Seigneur, aide-nous par ta puissance à nous accepter, nous supporter, nous aimer les uns les autres. Amen.